Seigneur mon Dieu. Les abeilles inondent le plan de quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui prive au niveau de l'échelle. Et le faire voir, Seigneur mon Dieu, au niveau de l'humanité. Ta bonté court après moi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je sais, Seigneur mon Dieu, que tu es là ce matin. Et parce que tu es là, Seigneur mon Dieu, tu déverses la ta bonté ce matin au milieu de ton peuple. Et je déclare, le bonté de l'éternel se renouvelle à nous chaque matin. Et nous croyons que ta bonté est là, disponible pour chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Merci, le Père divin est un homme. Merci, le Père divin est une personne, Seigneur mon Dieu. La Bible déclare, c'est rempli du Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de ta part. Et ce matin, Seigneur, qu'il envoie ainsi. Viens, toi, sceller ta lèvre, Seigneur, ce matin. Parle au travers de l'instrument que tu as choisi, Seigneur, ce matin. C'est un instrument tout à fait faible, limité, incapable, Seigneur. Mais à cause de ta bonté, Seigneur. À cause de ta bonté, Seigneur. Que ta grâce et ta bonté se manifestent. Merci, Seigneur, de toucher un homme ce matin. De répondre à une préoccupation ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. De parler à quelqu'un ce matin. Merci, Yahweh, d'être là. Nous comptons, Seigneur, sur toi. Nos regards sont fixés totalement vers toi, Jésus. Quand nous fixons nos regards vers toi, Seigneur, nous sommes régionnés. Et nos visages ne sont pas couverts de honte. Qu'il en soit ainsi. Parce que tu es notre Dieu. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer parce que tu es notre Dieu. Nous voulons t'acclamer pour ta bonté manifeste ce matin. Nous voulons t'acclamer pour ton amour grandiose. Nous voulons t'acclamer parce que nous savons que tu es là présent. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Shalom, peuple de Dieu. Shalom encore. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette journée dominicale qu'il nous offre encore ce matin devant sa présence. Nous voulons également dire merci à l'homme de Dieu qui certainement est en train de nous suivre au loin. Nous voulons lui dire merci pour cet encadrement, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Mais à vous tous qui êtes là également, nous voulons dire merci. Et même vous qui nous suivez au loin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc. Chapitre 10, du 25e verset au 37e verset. Luc 10, 25 à 37. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin et ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha
et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à Lot et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lesquels de ces trois te semblent avoir été les prochains de celui qui a été tombé au milieu des brigands? Celui-ci, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Seigneur, ta parole est vraie. Ta parole est puissante. Ta parole est capable, Seigneur, mon Dieu, de corriger. Ta parole est capable d'enseigner. Et ce matin, qu'il en soit ainsi. Prends-nous en charge. Au nom de Jésus. Amen. Notre thème de ce matin, nous l'avons intitulé « L'œuvre du Tout-Puissant sur le chemin de Jéricho ». L'œuvre du Tout-Puissant sur le chemin de Jéricho. Lorsque nous essayons de parcourir les chapitres 10 que nous avons lus, vous serez d'accord avec moi que ce chapitre a été écrit dans les mêmes circonstances que nous aujourd'hui. Nous sommes en train de parcourir un mois où nous avons évangélisé. Et hier, c'était la journée mondiale de l'évangélisation. Partant du premier chapitre, du premier verset, Jésus-Christ est en train, s'est choisi d'abord 70 disciples, 70 apôtres qu'il a envoyés. Et après la mission, nous voyons les 70 revenir faire rapport, comme c'était le cas hier. Comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, nos gens sont en train de faire rapport après tout ce grand travail qui a été abattu. Et pendant que les disciples étaient en train de faire rapport à leur maître, c'est à ce moment-là va surgir la question du docteur de la loi. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En fait, cet homme, c'est un docteur de la loi. C'est un enseignant de la parole. C'est quelqu'un qui connaît la loi. Mais quand il vient poser une telle question, ce n'est pas pour connaître parce qu'il sait déjà. Mais il vient ici pour éprouver. Et dans d'autres versions, on a dit pour lui tendre un piège. Alléluia. Or, il a oublié qu'il était devant les rois des rois. Il a oublié qu'il était devant l'enseignant des enseignants. Devant le créateur même. Il a oublié toutes ces choses. Ce matin, peut-être tu es là seulement, tu es venu pour éprouver. Tu es venu tendre un piège. Mais laissez-moi te dire que le Dieu de ce lieu va te rencontrer. Cet homme pouvait poser cette question. Et peut-être c'est cette même question qui est en train de monter dans ton cœur. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour que je sorte de ma situation? Que dois-je faire pour que je sorte de la situation auquel j'ai été plongé? Plusieurs questions montent dans le cœur de chacun de nous. Mais ce matin, notre Dieu répondra à toutes les questions. Pour bien comprendre cette question, nous avons essayé de subdiviser notre exhortation en trois petits points. Le premier point, nous l'avons intitulé un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Le deuxième, c'est la grâce au-dessus de la loi. Et le troisième, va et toi fais de même. Nous allons déjà rapidement avec les premiers points. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Nous sommes en face de deux villes. Il y a d'une part Jéricho, et d'autre part, nous avons la ville de Jérusalem. Et d'après certains commentateurs et en lisant des cartes, ces deux villes peuvent être séparées entre 29 km ou 40 km. se séparer comme cela.
Et Jérusalem, c'est une ville très haute, une ville élevée. Sur le plan géographique, la ville de Jérusalem est située à 780 mètres d'altitude, au-dessus de la mer. Mais la ville de Jéricho, c'est une ville très basse, située à plus ou moins 300 mètres en dessous de la mer. Donc nous voyons déjà, lorsque nous comparons les deux villes, il y a vraiment une grande fossée. Il y a une ville qui se trouve en dessous même de la vallée, mais il y a une ville qui est élevée. Et Jérusalem, c'est même le centre des institutions spirituelles. C'est là que Dieu a choisi de révéler son nom. C'est là que le Seigneur règne. C'est même le symbole de la présence de Dieu. Jérusalem, la ville de paix, où la grâce de Dieu règne. Par contre, Jéricho, c'était une ville maudite. Si on peut nous mettre Josué 6, 26. Josué 6, 26. Ok, si on peut lire ça ici. Ce fut alors que Josué gira en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho, en jettera le fondement au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Nous voyons déjà la malédiction qui était attachée à cette ville. Mais lorsque vous essayez aussi de voir, de regarder la situation de cette ville, nous trouvons que cette ville ressemble à ce que nous sommes au monde d'aujourd'hui. Une ville où il n'y a pas l'amour du prochain, dans une ville où les valeurs étaient renversées, dans une ville où rien ne pouvait aller, où règne l'injustice, dans une ville où on pouvait légaliser des choses. Des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Donc, nous voyons déjà que Jéricho, c'est l'image du monde. Mais cependant, nous sommes en train de voir cet homme, malgré les avantages, malgré tous les avantages que Jérusalem est en train de représenter pour lui, cet homme a choisi le chemin de Jéricho. Cet homme a choisi le chemin de Jéricho. C'est le cas de plusieurs personnes parmi nous ce matin. Malgré tout ce que le Seigneur nous présente comme bénéfice, malgré la grâce du Seigneur, malgré la bonté de l'Éternel dans ta vie, tu as choisi le chemin de Jéricho. Il y a des gens, avant d'avoir son travail, il est en train de prier, le Seigneur t'a donné du bon travail, c'est très bien. Tu as gravé les échelons, tu es arrivé jusqu'à très haut là. C'est en ce moment-là qu'on veut te dire, tu sais, pour protéger ce poste. Il faut toucher, nous avons touché, c'est comme ça, nous sommes là stables. Mais tu as oublié que c'est Dieu-là qui t'a pris du plus bas niveau est capable de protéger le poste. Les gens oublient toutes ces choses. Et le plus souvent, les hommes se laissent dans ses goûts de prendre le chemin de Jéricho. Cet homme a planifié lui-même. Il a planifié son parcours vers Jéricho. Il a rassemblé son argent. Il a pris une grande décision de pouvoir descendre à Jéricho. Et la vie est faite de choix et de décisions. Ce jour-là, lui aussi a fait un choix. Et chacun de nous est appelé à faire un choix. Mais quel choix? Quel choix faisons-nous dans nos vies? Quel choix fais-tu de ta propre vie? Cet homme a pris la résolution de descendre. Et le voilà en train de descendre. Pendant qu'il est en train de descendre avec sa volonté personnelle. Oui, c'était sa propre volonté, il n'a pas été poussé. c'est sa propre volonté. Il y a des gens capables de planifier les péchés. Il y a des gens capables de descendre le chemin de Jéricho. Eux-mêmes, planifient. Or, bien-aimés, lorsque nous choisissons notre propre volonté vers une vie de mal comme Jéricho, nous ne sommes plus en sécurité. Nous sommes déséquilibrés. Nous n'avons plus de sécurité. Le Seigneur peut même s'éloigner de nous parce que nous voulons faire notre volonté propre au lieu de faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, il convient que chacun de nous se pose la question chaque fois qu'il veut poser des actes. Est-ce que je suis encore dans la volonté du Seigneur? Chaque acte mérite que nous puissions nous poser des questions si nous sommes encore dans la volonté du Seigneur. Tout en descendant, on se corrompt. La corruption monte. Plus on descend, plus on entre dans la corruption. Et cet homme, puisqu'il est en train de descendre parce que c'est une pente, il vient d'une ville très élevée vers une ville très basse. En descendant, il est en train de se corrompre davantage. Et ce que nous devons savoir, lorsque nous descendons, si nous ne prenons pas garde, nous pouvons directement couler. J'imagine quelle était cette pente-là. Peut-être c'est de 15 degrés, de 10 degrés. Et s'il glisse seulement, il va se retrouver jusqu'en bas là-bas. Donc, il était vraiment dans une insécurité totale. Nous sommes tous guettés par ce chemin. Le chemin de Jéricho nous guette, nous tous. Guette tout le monde ici présent. Personne n'est épargné dans ce chemin. Personne ne peut se dire, en tout cas, moi, ce chemin, vraiment, rien ne peut se passer. Je n'irai pas dans ce chemin. Nous sommes tous guettés par ce chemin. Ce chemin nous guette. Et donc, nous devons faire attention, car le monde autour de nous est plein des hommes souillés, des hommes pleins de malice, des hommes pleins de ruses, les hommes qui ont des projets malsains contre nous. Plus on descend, plus on sent la dégradation spirituelle. Hier, tu étais capable de prier pendant une heure du temps, tu descends à 30, parce que tu es en train de descendre. Demain, tu vas descendre à 15. Finalement, tu ne vas plus prier. Tu vas seulement commencer à prier une fois par semaine. Finalement, c'est pour un mois. Et finalement, tu ne vas plus prier. Absent dans toutes les réunions. Absent partout où on a besoin de toi. Tout simplement parce que la dégradation est totale. Cette dégradation vise tous ces hommes et les femmes qui vivent sur une volonté personnelle. Tu te conduis toi-même. Et les hommes sont prêts à dire, « Ebongo vi yango, ezaya yo, ne ezaya nga moko, kamongo etali yo. » Donc, pour lui, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas obligés de faire tout ce que nous pouvons faire. Le Seigneur ne voudra pas que nous puissions vivre selon que nous voulons. Njoto yango ya yo moko, c'est vrai, mais le souffle de vie ne t'appartient pas. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Dis à ton voisin, tu vis pour Dieu. Cet homme qui descendait avait le goût du monde. Il avait le goût du monde. Il avait besoin de vivre encore. Faut en vivre. Oh, na tozolia yangonde yabiso. Il avait encore le goût du monde. Peut-être il était insatisfait de ce que Jérusalem est en train de lui offrir. Parce qu'il n'était pas satisfait. Il peut se dire, je vais chercher ailleurs. Et plusieurs personnes sont comme ça. Le Seigneur t'a donné un bon travail. Tu te dis non. Oh yangote, il faut que j'aille encore ailleurs. Le Seigneur t'a donné une bonne femme, tu dis non, oh yete, il faut que j'aille encore ailleurs. Le Seigneur t'a donné un bon mari, non, pas celui-là, il faut quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça dans la vie. Les gens sont insatisfaits. Et ils se disent, il faut que j'aille goûter ailleurs.
Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons vivre comme les autres.
Parce qu'un tel a fait, moi aussi je dois faire. Parce qu'un tel a acheté une nouvelle voiture, moi aussi je dois acheter une nouvelle voiture. Comment? Tout le monde a mis des voitures au-dessus là-bas, oui. Et c'est seulement ma voiture qui manque, oui. Moi aussi je dois mettre.
Et en voulant suivre les autres, tu iras poser la question, comment est-ce que vous avez fait pour y arriver? Et chacun a sa façon de faire. Tu as vu ton collègue monter des échelons, papa, il arrive jusque très haut là-bas, tu te dis, moi aussi je veux être comme lui. Et tu vas poser la question, comment tu as fait? Ok, je vais te montrer qu'est-ce que moi j'ai fait. Le chemin de Jéricho guette tout le monde. Ne faisons pas comme tout le monde, bien-aimé. Comment tu as fait? Et conséquence, pour cet homme qui descendait le chemin de Jéricho, comme conséquence, il tombe au milieu des brigands. Alléluia! Il tombe au milieu des brigands. Perdu et incapable de résister. Il était seul. Je ne sais pas ces brigands étaient combien. Et ils étaient plus forts que lui. Ils étaient préparés. Ce chemin qui est réputé être un chemin, où un chemin dangereux, où il a choisi de descendre, ce jour-là, le Seigneur lui a aussi laissé faire. Vas-y. Et il a laissé aussi faire aux bandits. Touchez-les. Il y a des choses que le Seigneur permet qu'on vous touche pour que vous puissiez revenir à la raison. Perdu et incapable de résister.
Et c'est cela qui se passe lorsque nous faisons notre volonté personnelle. Et les gens peuvent dire, mangeons et buvons, parce que demain ne nous appartient pas.
Ecclésiaste 11:9 nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que Dieu t'appellera au jugement. Amen. En regardant ce verset, c'est comme si Dieu nous laisse une libre pratique, libre arbitre. Fais ce que tu veux. Mais sache, il y a une fin. Les mains là, c'est ce qui vient clôturer toute chose. Mais sache qu'il y a un jugement. Bien-aimé, toi qui es en train de faire ce que tu veux, tu vois les jeunes filles d'autrui, tu dis, moi je dois arriver là-bas. Tu vois ceci, les maris d'autrui, moi je dois arriver là-bas. Sache que le jugement est là. Il y a un jugement. Nous sommes sans sécurité. Celui qui nous dépouille nous donne quelque chose.
Ces brigands qui sont venus dépouiller cet homme lui ont aussi donné quelque chose.
Et ce qu'ils lui ont donné, c'est quelque chose qui n'est pas bon.
Quand le diable vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas pour bénir, il ne vient pas pour apporter la joie, il ne vient pas pour apporter l'amour, mais il vient détruire. Et Jean 10:10 le dit. Que l'ennemi, le voleur, quand il vient pour détruire, pour voler, pour dérober.
Combien de familles sont détruites? Combien de vies sont détruites par l'ennemi qui est passé par là? Le fait d'avoir rencontré l'ennemi, plusieurs familles sont détruites, plusieurs familles sont à terre. Et ils ne peuvent plus rien faire. Incapables de progresser. La destruction a pris place. Tout simplement parce que le diable est passé par là. Ce voleur, ou sinon ce brigand qui est le diable, nous dépouille, nous donne de la maladie, nous déséquilibre, vole notre paix. Par la violence, vole l'amour que nous avons.
Et il vient même nous priver l'amour du prochain. Aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas aimer leur prochain. Les églises sont pleines chaque dimanche. Mais quand vous retournez, quand vous descendez sur le terrain, vous regardez ce qui se fait sur le terrain, il n'y a pas l'amour du prochain. Les gens ne s'aiment pas. Les gens ne s'aiment pas, bien-aimés. Cet ennemi agit sur un seul but, c'est de nous opprimer, de nous dévorer. C'est ça son but, de nous causer du tort. Son but, c'est de nous appauvrir. Malheureusement, malgré son projet de société médiocre, le diable a toujours beaucoup d'acolytes derrière lui. Son projet, c'est quoi? C'est détruire. Son projet de société, c'est quoi? C'est opprimer, c'est dévorer, c'est nuire, causer du tort, appauvrir. C'est ça son projet de société. Mais plusieurs personnes y adhèrent quand même. Jusqu'à quand, bien-aimés, voulons-nous continuer à suivre les diables? Nous voulons bien lutter contre la pauvreté. On ne refuse pas que les gens aillent chercher du travail, que les gens puissent lutter contre la pauvreté. Mais nous devons le faire selon les normes du royaume. Nous devons le faire selon les prescriptions de la Bible. Et c'est possible qu'une personne ait du travail sans corrompre, sans faire quoi que ce soit. Un travail propre. Conformons-nous donc aux principes du royaume, c'est-à-dire les principes de la Bible. C'est à ce moment-là que nous allons vivre la main et la puissance de notre Dieu. Conformons-nous. Nous allons directement à notre deuxième point. La grâce au-dessus de la loi. Pendant que cet homme était tombé au milieu des brigands, il a été dépouillé. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait, oh, il avait un téléphone cher, Android, je ne sais quoi, iPad, ça a été pris. Les gros montants, là, j'imagine, ça doit être en dollars, qu'il a mis en poche pour aller s'amuser, ça a été pris. Et je m'imagine que même les souliers, on ne lui a pas laissé ça. La cravate, ils ont amené. Tout ce qu'il avait comme quelque chose de précieux a été dépouillé. Et il a été dépouillé. Il a été laissé vide. Mais non, pas seulement ça. On lui a chargé de coups. L'ennemi, quand il passe dans la vie d'une personne, vous devez sentir le choc de ses coups. Il ne laisse pas comme ça. Il ne va pas seulement te dépouiller, mais il donne aussi des coups. Et ce jour-là, il en a eu pour son compte. Il a eu des coups. Des coups violents qui lui ont fait mal. Jusqu'à être laissé à demi-mort. Presque mourant. Ce qui était seulement resté, c'est juste la respiration. Quand on pouvait regarder seulement les yeux, juste les yeux ouverts et la respiration, c'est juste ce qui lui était resté. Et c'est peut-être ta situation aujourd'hui. L'ennemi est passé et il a détruit. L'ennemi est passé et il a ravagé. L'ennemi est passé, il a laissé des traces. L'ennemi est passé, il a fait ce qu'il a fait. Peu importe ce que l'ennemi a fait dans ta vie. La Bible déclare dans Ecclésiaste 9:4. Pour ceux qui vivent encore, il y a encore de l'espérance. Tant que tu vis encore, il y a encore de l'espérance. L'erreur que l'ennemi avait commise, c'est quoi? C'est de lui laisser la vie. Une erreur grave, fatale, de la part de l'ennemi. Il aurait fallu l'achever, mais vous lui laissez encore la vie. Mais c'est une erreur grave. L'ennemi a commis une erreur grave de laisser encore cet homme en vie. Il aurait fallu qu'on puisse l'écraser, le terminer. Et Et il était là en train de gémir. Il était là en train de pleurer. Il n'avait que ses yeux pour pleurer. Et il n'avait que sa bouche pour gémir. Et quelque chose d'inhabituel va se passer dans ces lieux. C'est quoi? C'est le passage de trois personnes. Trois individus vont passer par là. Le premier, c'est les Lévites qui passent par là. Alors les Lévites passent dans toute gentillesse. Et quand il arrivait, oh non, 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 je ne peux même pas m'approcher là-bas. Non, 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 non. Il est passé outre. La Bible dit, il passa outre. Quelques minutes après, c'est le sacrificateur. Certainement, quand l'homme est en train de voir ces personnes, lui-même étant de Jérusalem, et tous ces hommes-là sont de Jérusalem, il pouvait se dire, waouh, mes frères sont là, je suis sauvé. C'est le moment pour moi d'être délivré. Mais curieusement, il voit encore les sacrificateurs passer outre. Alléluia! Passer outre, c'est ce qui arrive. Ceux à qui tu attends le secours ne te donneront rien. Vous attendrez toujours le secours d'un homme, tu seras déçu. Tu as déjà tracé ta liste. Quand je vais me marier, ici tu es en train de nous mentir. Oh non, je suis en train de prier, le Seigneur fera grâce, tout ça, tout ça. Or, tu as déjà tracé la liste. L'oncle de Kinshasa, 1000. Un tel, 2000. Un tel, 500. Un tel, 500. Toi-même, tu n'as rien. Tu es en train de compter sur tous ces gens. Tu seras déçu. Cet homme a été déçu par les détenteurs de la loi de la ville de Jérusalem. Ce sont eux les détenteurs de la loi. Ce sont eux qui sont censés défendre la parole de Dieu qu'ils étaient en train de lire dans les synagogues. Mais ce jour-là, devant cet homme, ils sont passés outre. Ils sont passés outre. Après le passage de ces deux Juifs, un Samaritain voyageait. Les deux autres là, on n'a pas dit ce qu'ils sont allés faire dans ce chemin. N'est-ce pas? C'est une route dangereuse, mais ils se sont retrouvés là-bas. Comme pour vous dire que personne n'est à l'abri. Les sacrificateurs, les lévites, qui que nous soyons, nous ne sommes pas à l'abri. Les deux là, on n'a pas dit qu'est-ce qu'ils sont allés faire. Mais celui ici, il était de passage. Il voyageait. Il voyageait. Et le voilà arrivé sur les lieux de crime. La Bible dit, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Cette compassion ici est différente de la pitié qu'une personne peut avoir pour une autre personne. Parce que quand on a pitié de quelqu'un, on va juste observer. On a juste ce sentiment. Moi, je suis maouin. Ça lié, est vraiment maouin. On s'arrête là. Mais quand on est ému de compassion, on va au-delà de ce qu'on doit faire. On va au-delà de compatir au malheur. On se met même à la place de cette personne-là. On ressent ce qu'il sent. Et c'est ce qui pousse une personne de venir au secours d'un prochain. C'est ce qui pousse une personne d'aimer un prochain. Quand on n'a pas la compassion, on aura la pitié, mais vous n'allez pas aider. Vous n'allez pas subvenir. Vous n'allez pas laisser le couloir à une personne comme ça. Vous n'allez pas l'engager dans votre entreprise. Pourquoi? Parce que tout s'arrête seulement au pitié. Nous devons aller au-delà du pitié. La compassion. Ayons la compassion, bien-aimés, des autres. Et par cette compassion, bien-aimés, nous voyons cet homme descendre. Il est descendu de sa monture. Ça, c'est le premier geste. Après avoir descendu, il s'est approché. Le voilà s'approcher. Il veut s'enquérir de la situation. Qu'est-ce qui se passe?
Après qu'il s'est approché,
il a donné les premiers soins. Alléluia. Réveille ton voisin d'à côté. Dites-lui premier soin.
Ce matin, le Seigneur est venu donner le premier soin à quelqu'un. Tu as été blessé. Tu as été jeté. Tu as été laissé à demi-mort en cours de la route. Le Seigneur est venu ce matin pour les premiers soins.
Il a prouvé combien il avait de l'amour du prochain. Contrairement aujourd'hui, les gens peuvent dire, je prie, je vais à l'église, j'aime le Seigneur, mais incapable d'aimer un prochain. Et lorsque nous essayons de lire Jean, 1 Jean chapitre 4, le verset 9, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit.
Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Tu aimes Dieu? Commence par ton prochain. Tu aimes Dieu? Commence par ton voisin là d'à côté. Ça ne sert à rien de commencer à poser la question pour savoir il est de quel coin. Tu commences à analyser son nom. Tu analyses les i ici, ça doit être de... Hein? Je vois les deux là, les deux là. Non. Ok, je vais les tester. Et quand il va te voir, il commence par te parler dans une des dialectes qu'il connaît, auquel il est tenté de t'identifier. S'il voit que tu n'as pas parlé, il comprend, ah, il n'est pas de chez nous. Mais qui est de chez vous? Qui est de chez vous? Il n'est pas de chez nous. Et s'il allait même te donner quelque chose, s'il allait même te donner du travail, il change. Avant, quand il était arrivé le matin, il était favorable. Mais après avoir analysé, qu'il a compris que tu n'es pas de chez lui, qu'il a compris que tu n'es pas soi-disant son frère, il a changé d'avis. Il change d'avis. Mais il y a des moments, il y a un jour où tu vas te retrouver devant une personne où le Seigneur te forcera la main. Tu as hésité, tu seras obligé. Là, c'est le doigt du Seigneur. Il s'est approché, il a bandé ses plaies et il a versé de l'huile. Vous savez, lorsque vous versez de l'huile sur une plaie, ça adoucit, hein? Ça donne un peu de la douceur. Et c'est même le travail que le Saint-Esprit fait. C'est le consolateur par excellence. C'est lui qui vient nous consoler. Quand vous avez le Saint-Esprit vient consoler. Le Saint-Esprit vient porter ce qui a manqué. Il a également versé du vin pour désinfecter cette plaie. Oui, quand on vous désinfecte, ça fait mal. Mais c'est pour votre guérison. C'est pour votre guérison. Et il ne s'est pas arrêté par là. Donc, premier soin, la Bible dit, il va encore faire quelque chose d'autre. Il va poser un deuxième geste. Il a déjà soigné. Il a donné les premiers soins. Il s'est dit, si je les laisse ici, un groupe de bandits viendra encore. Et ils vont l'achever. Alors quel sera le rôle de mon travail? J'aurai travaillé pour rien. Alors je fais quelque chose. J'ai fait un deuxième geste. Le premier soin s'est passé, j'ai fait maintenant un deuxième geste. Allez, il lui fait monter sur la monture. Il a préféré lui-même faire les pieds. Il était là, sur la terre, et l'homme qui a été blessé sur la monture. Et il lui a conduit jusqu'à une hôtellerie, où il a été pris en charge. Alléluia! Le Seigneur nous prendra en charge. Le Seigneur, quand il commence quelque chose, il ne va pas nous laisser seulement en cours de chemin, il nous prend totalement en charge. Il est ce Dieu capable de prendre un homme en charge. Et quand il nous prend en charge, la prise en charge est totale. Cette prise en charge était totale. Il s'est dit, cet homme aura peut-être besoin de manger. Dans l'hôtellerie, il trouvera à manger. Cet homme aura peut-être besoin de se laver. Là, il y aura des conditions réunies. Nous voyons cet homme qui a été ramassé dans la poubelle, mais le Seigneur lui met dans une bonne condition. Le Samaritain lui met dans une bonne condition. Une personne qui ne connaît pas. Il semble que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. C'est cette personne-là que vous appelez comme ennemi, mais c'est lui qui te prend en charge. Physiquement, spirituellement, à tous les niveaux financièrement, il te prend en charge sur tous les plans. Il va payer de son argent. Et cet homme samaritain que nous venons de voir n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il est le seul capable de subvenir à nos besoins. Il est le seul capable de verser sa grâce parmi nous. Il est le seul. Les actes posés par ces Samaritains prouvent à suffisance que la grâce est capable de tout faire. La grâce est venue récupérer ces hommes qui ont été condamnés par la loi. Ces deux hommes qui sont passés par là, certainement, ils se sont dit, « N'jela oyobape ki sayango, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici ?» Ah, c'est son problème. C'est lui qui cherche et trouve, hein. Condamné par la loi, par les hommes de la loi. Mais quand la grâce est venue, nous n'avons pas entendu une seule fois cet homme poser la question « Qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Non. Quand le Seigneur vient dans la vie d'une personne, il n'a pas besoin de savoir comment tu es arrivé là-bas. Il a juste besoin de te soutenir et de te relever. Cet homme n'avait que faire de savoir qu'est-ce que tu es venu faire ici. Non. Je sais qu'il est en difficulté. Je sais qu'il a un problème. Je sais qu'il est déjà tombé. Maintenant, moi, comme je suis venu les relever. Combien de personnes ont été condamnées par des lois? Des lois établies dans nos familles. Tu ne vas pas franchir ces limites. Basi bakata. Ils vont seulement s'arrêter ici. De l'autre côté, ici, personne ne peut traverser. Condamné par les lois. Les lois établies dans nos familles. Condamné par les lois diaboliques. Condamné. Mais ce matin, la grâce de Dieu qui est en train de circuler à travers cette église, à travers le monde, veut récupérer un homme condamné. Veut récupérer un homme que la loi a condamné, que la loi a rejeté. La grâce est venue te récupérer. Peu importe la situation que tu en dis aujourd'hui. Des peines, des souffrances, tu ne comprends pas exactement qu'est-ce qui se passe dans ta vie. La grâce de Dieu est là ce matin. Et quand la grâce de Dieu est là, la grâce vient pour changer les choses. Et dans Luc 4, 18, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avez-vous un cœur brisé ce matin? La grâce est là. Avez-vous été blessé? La grâce est là. Avez-vous été rejeté? La grâce est là ce matin. Peu importe ta situation, la grâce est là. Saisis donc ce moment pour toi. Si le Seigneur, cet homme, ce Samaritain que nous pouvons aussi appeler Seigneur Jésus-Christ, en conduisant cet homme à l'hôtellerie, il lui a conduit là-bas pour qu'il soit pris en charge. Et nous, le seul cadre idéal auquel nous pouvons être pris en charge, c'est l'Église. C'est l'Église du Seigneur. Avant qui était je ne sais où, qui a été ramassé où, quand tu viendras à l'Église, l'Église va te forger. L'Église va faire de toi une nouvelle personne. L'Église va te donner une nouvelle façon de voir les choses. Et pour terminer, puisqu'il doit partir, la Bible dit le lendemain. Ça signifie que s'ils sont arrivés là-bas à 15 heures, ce Samaritain a passé nuit là-bas en train de se réveiller son type. Et le lendemain, c'est-à-dire que le matin qui a suivi, c'est en ce moment-là qu'il va maintenant se décider pour partir. Mais il dit, je ne pars pas comme ça. Il tire des deniers. Il a fait sortir combien de deniers? Des deniers de sa poche. Il a donné à Lot pour lui dire, prends cet homme en charge. Je sais que je ne serai pas là pendant ce moment. Il peut avoir besoin du pain. Il peut avoir besoin d'un boudin, il peut avoir besoin de je ne sais quoi. Prenez-lui en charge. Dédaignez. Et j'ai essayé de faire des calculs par rapport à ces dédaignés. En essayant de lire le livre de Matthieu 20, partie du premier verset jusqu'au 13e verset, là, j'ai compris que c'était le salaire journalier d'un ouvrier. Donc, un denier était le salaire journalier d'un ouvrier. Lorsque nous lisons Matthieu 20, à partir du premier verset, nous voyons que cet homme-là, qui avait engagé des ouvriers pour venir travailler, il leur avait payé un denier à chacun. Donc, c'était le salaire journalier d'un ouvrier. Et quand j'ai essayé de convertir ça ici chez nous, selon le SMIC de la RDC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, si vous essayez de convertir cela, ça nous donne quelque chose de plus ou moins 10 dollars pour les ouvriers de basse classe. Mais si on prend par exemple une classe moyenne, ça peut monter, varier à une valeur plus ou moins de 20 dollars par jour. Et quand, comme c'était dédaigné, on peut aller plus ou moins 40 dollars. Mais puisque cette histoire se passe au moment du règne des Romains en Israël, j'ai essayé de voir le SMIC des pays européens et par rapport au salaire mensuel, je suis arrivé à 130 dollars. 130 dollars pour ce dédaigné. Ça veut simplement dire que l'argent, cet argent-là qu'il a laissé, c'était une somme qu'il a laissé juste pour un peu de temps. Alléluia! Ça veut simplement dire qu'il ne fera pas longtemps. Il va vite revenir. Je m'en vais, prenez-lui en charge, mais je vais revenir. Mais s'il y a un petit dépassement, je viendrai prendre en charge. Et cela me fait comprendre que Jésus revient bientôt. Si nous prenons ces deux jours-là, Nous sommes, l'histoire se passe vers les années 30 et 33 de notre ère. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. En supposant que Dieu, pour une journée, c'est 1000 ans chez lui. Si nous prenons 1000 ans, donc, nous serons juste proches, approximatifs, du retour du maître. Donc, nous sommes en train de vivre les dernières secondes. Alors, bien-aimés, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits, bien-aimés, parce que nous sommes en train de vivre aux dernières secondes et le maître revient bientôt. Bien-aimés, nous avons besoin de donner nos vies à Jésus-Christ. J'ai sali l'activité qui s'était faite tout au long de la semaine. Et d'après les rapports que j'ai regardés dans notre église, plus ou moins 206 âmes ont été gagnées. 206 âmes ont été gagnées, c'est très bien. Mais si nous sommes seulement allés sur le terrain pour gagner les âmes, et les laisser comme ça, nous n'avons rien fait. Il faut qu'ils soient conduits à l'hôtellerie. Si nous ne le faisons pas, nous n'avons rien fait. Dis à ton voisin, nous n'avons rien fait. Hier, nous étions très fiers. Vous avez fait les rapports, c'est bien. Faites encore un deuxième pas. Faisons encore un deuxième pas. C'est les conduire à l'église. Je ne parle pas seulement de l'église la bonne. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je parle seulement qu'on les amène ici. Non, il y a plusieurs églises là où ils peuvent être pris en charge. L'amour du prochain exige que nous puissions descendre sur le terrain, chercher des âmes qui sont en proie de la mort, afin de les conduire à Christ, qui seul est capable de leur donner le vrai repos. Nous terminons avec notre dernier point. Juste une petite conclusion que nous allons donner par rapport à ce que nous avons dit. Va et toi fais de même. En disant cela, Jésus-Christ voulait juste que ce qu'il avait dit dans Matthieu 28, 19 à 20 soit mis en pratique. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Toi, va, fais ainsi. Fais de même. Fais de même comment? Tu as vu comment j'ai fait. N'allez pas seulement me prendre, n'allez pas seulement gagner les âmes et t'y abandonne, mais va faire des disciples. Va faire des disciples qui demain eux aussi vont descendre sur le terrain, qui vont encore faire d'autres disciples. Et le royaume avancera. Ce matin, après avoir écouté cette parole, il y a lieu que chacun de nous puisse se dire, je suis à quel niveau? Est-ce je suis ce docteur de la loi? Est-ce je suis ce lévite? Je suis ce sacrificateur? Ou je suis cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho? Chacun de nous représente un type d'homme. Mais peu importe le type d'homme que vous représentez ce matin, la grâce de Dieu est là. Peu importe ce que tu es, la grâce de Dieu est là. Tu es samaritain, tu es cet homme qui a été jeté, la grâce est là pour toi. Il se pourrait que tu aies déjà pris contact, que tu aies déjà rencontré Jésus dans ta vie. Mais depuis un certain temps, tu as fait naufrage. Tu es descendu encore beaucoup plus bas. Tu t'es engagé sur les chemins de Jéricho. Aujourd'hui, le Seigneur est venu te rappeler que tu reviennes à la raison. Tu peux revenir à la raison. Malgré la distance que tu as déjà traversée pour arriver là où tu es arrivé, tant que tu n'es pas encore tombé au milieu des brigands, le Seigneur te rappelle. Mais à toi qui as été sauvé, qui a été pris en cours de chemin, persévère. Parce que si tu continues, le pire t'arrivera. Persévère. Chacun selon ses responsabilités. Chacun selon ses responsabilités, nous allons pouvoir faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Aller sur le terrain et faire des disciples. Quel est ton problème ce matin? Tu te retrouves où ce matin? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais bien aimer que nous puissions prier. Chacun de nous est concerné dans cette parole. Qui es-tu et où es-tu ce matin? Je voudrais que chacun de nous fasse une introspection personnelle. Que chacun de nous entre en lui et qu'il voie comment il a conduit sa vie. Et qui voit à quel niveau. Peut-être que tu es de subir déjà des coups. Mais tu peux compter sur la grâce de Dieu. Tu peux encore crier ce matin. Et à nous qui n'avons pas encore rencontré les fils de l'homme, nous qui n'avons pas encore rencontré Jésus, ce matin on peut se dire, Seigneur, me voici, je viens à toi. Tu ne l'as jamais rencontré. Ce matin, tu peux te décider. Ne renvoie pas ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain n'est pas pour toi. Demain c'est pour l'Éternel des armées lui-même. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver jusque là. Alors décide-toi. Car Jésus revient bientôt. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu. Pour lequel que tu es en train de toucher ce matin. Merci Seigneur mon Dieu pour les plaies que tu es en train de t'aider de guérir. Merci Seigneur mon Dieu pour de faire de ce que tu es notre Dieu d'adoucir Seigneur mon Dieu nos plaies, nos peines, nos souffrances. Seigneur oui, nous avons longtemps peiné, nous avons longtemps souffert Seigneur notre Dieu. Mais ce matin, tu es venu Seigneur mon Dieu nous apporter la joie. Tu es venu nous apporter Seigneur mon Dieu un secours. Tu es venu Seigneur ce matin apporter Seigneur la joie qu'aucun homme ne peut nous donner Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce. Nous comptons Seigneur sur toi. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci pour tout ce que tu accompliras encore dans nos vies. Seigneur, seul toi es capable de donner la vie là où la mort a pris place. Seul toi es capable de libérer ceux qui sont bloqués. Seul toi es capable de guérir les malades. Seul toi, Jésus.